Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble dans nos lectures en liberté et je vous propose de démarrer cette nouvelle semaine avec la lecture d'un roman qui a eu beaucoup de répercussions, dont on a beaucoup parlé lorsqu'il est sorti en 1954, ce fameux roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui et la douceur m'obsèdent, j'hésite à apposer le nom, le beau nom, grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste, que j'en ai presque honte, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie énervante et douce et me sépare des autres. Cet été-là, j'avais 17 ans et j'étais parfaitement heureuse. Les autres, c'était mon père et Elsa, sa maîtresse. Il me faut tout de suite expliquer cette situation qui peut paraître fausse. Mon père avait 40 ans. Il était veuf depuis 15. C'était un homme jeune, plein de vitalité, de possibilités, et à ma sortie de pension, 2 ans plus tôt, je n'avais pas pu ne pas comprendre qu'il vécût avec une femme. J'avais moins vite admis qu'il en changeât tous les 6 mois. Mais bientôt sa séduction, cette vie nouvelle et facile, mes dispositions m'y amenèrent. C'était un homme léger, habile en affaires, toujours curieux et vite lassé, et qui plaisait aux femmes. Je n'eus aucun mal à l'aimer, et tendrement, car il était bon, généreux, gai, et plein d'affection pour moi. Je n'imagine pas de meilleur ami ni de plus distrayant. À ce début d'été, il poussa même la gentillesse jusqu'à me demander si la compagnie d'Elsa, sa maîtresse, ne m'ennuierait pas pendant les vacances. Je ne pus que l'encourager car je savais son besoin des femmes et que, d'autre part, Elsa ne nous fatiguerait pas. C'était une grande fille rousse, mi-créature, mi-mondaine, qui faisait de la figuration dans les studios et les bars des Champs-Élysées. Elle était gentille, assez simple et sans prétention sérieuse. Nous étions d'ailleurs trop heureux de partir, mon père et moi, pour faire objection à quoi que ce soit. Il avait loué sur la Méditerranée une grande villa blanche, isolée, ravissante, dont nous rêvions depuis les premières chaleurs de juin. Elle était bâtie sur un promontoire dominant la mer, caché de la route par un bois de pins. Un chemin de chèvre descendait à une petite crique dorée, bordée de rochers roux, où se balançait la mer. Les premiers jours furent éblouissants. Nous passions des heures sur la plage, écrasés de chaleur, prenant peu à peu une couleur saine et dorée, à l'exception d'Elsa qui rougissait et pelait dans d'affreuses souffrances. Mon père exécutait des mouvements de jambes compliqués pour faire disparaître un début d'estomac incompatible avec ses dispositions de Don Juan. Dès l'aube, j'étais dans l'eau, une eau fraîche et transparente où je m'enfouissais, où je m'épuisais en des mouvements désordonnés pour me laver de toutes les ombres, de toutes les poussières de Paris. Je m'allongeais dans le sable en prenant une poignée dans ma main, le laissais s'enfuir de mes doigts en un jet jaunâtre et doux. Je me disais qu'il s'enfuyait comme le temps, que c'était une idée facile et qu'il était agréable d'avoir des idées faciles. C'était l'été. Le sixième jour, je vis Cyril pour la première fois. Il longeait la côte sur un petit bateau à voile et chavira devant notre crique. Je l'aidai à récupérer ses affaires et au milieu de nos rires, j'appris qu'il s'appelait Cyril, qu'il était étudiant en droit et passait ses vacances avec sa mère dans une villa voisine. Il avait un visage de latin très brun, très ouvert, avec quelque chose d'équilibré, de protecteur qui me plut. Pourtant, je fuyais ces étudiants de l'université brutaux, préoccupés d'eux-mêmes, de leur jeunesse surtout, y trouvant le sujet d'un drame ou un prétexte à leur ennui. Je n'aimais pas la jeunesse. Je leur préférais de beaucoup les amis de mon père, des hommes de 40 ans qui me parlaient avec courtoisie et attendrissement, me témoignaient une douceur de père et d'amant. Mais Cyril me plut. Il était grand et parfois beau, d'une beauté qui donnait confiance. Sans partager avec mon père cette aversion pour la laideur qui nous faisait souvent fréquenter des gens stupides, j'éprouvais en face des gens dénués de tout charme physique une sorte de gêne, d'absence. Leur résignation à ne pas plaire me semblait une infirmité indécente. Car que cherchions-nous, sinon plaire ? Je ne sais pas encore aujourd'hui si ce goût de conquête cache une surabondance de vitalité, un goût d'emprise ou le besoin furtif, inavoué, d'être rassuré sur soi-même, soutenu. Quand Cyril me quitta, il m'offrit de m'apprendre la navigation à voile. Je rentrai dîner, très absorbé par sa pensée, et ne participai pas, ou peu, à la conversation. C'est à peine si je remarquai la nervosité de mon père. Après dîner, nous nous allongeâmes dans des fauteuils sur la terrasse, comme tous les soirs. Le ciel était éclaboussé d'étoiles. Je les regardais, espérant vaguement qu'elles seraient en avance et commenceraient à sillonner le ciel de leur chute. Mais nous n'étions qu'au début de juillet, elles ne bougeaient plus. Dans les graviers de la terrasse, les cigales chantaient. Elles devaient être des milliers ivres de chaleur et de lune à lancer ainsi ce drôle de cri des nuits entières. On m'avait expliqué qu'elles ne faisaient que frotter l'une contre l'autre leur élytre. Mais je préférais croire à ce chant de gorge guttural, instinctif, comme celui des chats en leur saison. Nous étions bien. Des petits grains de sable entre ma peau et mon chemisier me défendaient seuls des tendres assauts du sommeil. C'est alors que mon père tout sauta et se redressa sur sa chaise longue. « J'ai une arrivée à vous annoncer, » dit-il. Je fermai les yeux avec désespoir. Nous étions trop tranquilles, cela ne pouvait durer. « Dites-nous vite qui ? » cria Elsa, toujours avide de mondanité. « Anne Larsen, » dit mon père. Et il se tourna vers moi. Je le regardai, trop étonné pour réagir. Je lui avais dit de venir si elle était trop fatiguée par ses collections et elle, ben elle arrive. Je n'y aurais jamais pensé. Anne Larsen était une ancienne amie de ma pauvre mère et n'avait que très peu de rapport avec mon père. Néanmoins, à ma sortie de pension, 2 ans plus tôt, mon père, très embarrassé de moi, m'avait envoyé à elle. En une semaine, elle m'avait habillé avec goût et appris à vivre. J'en avais conçu pour elle une admiration passionnée qu'elle avait habilement détourné sur un jeune homme de son entourage. Je lui devais donc mes premières élégances et mes premiers amours. Et je lui en avais été beaucoup reconnaissante. À 42 ans, c'était une femme très séduisante, très recherchée, avec un beau visage orgueilleux et là, indifférent. Cette indifférence était la seule chose qu'on pût lui reprocher. Elle était aimable et lointaine. Tout en elle reflétait une volonté constante, une tranquillité de cœur qui intimidait. Bien que divorcée et libre, on ne lui connaissait pas d'amant. D'ailleurs, nous n'avions pas les mêmes relations. Elle fréquentait des gens fins, intelligents, discrets, et nous, des gens bruyants, assoiffés, auxquels mon père demandait simplement d'être beau et drôle. Je crois qu'elle nous méprisait un peu, mon père et moi, pour notre parti pris d'amusement, de futilité, comme elle méprisait tout excès. Seule nous réunissait des dîners d'affaires, elle s'occupait de couture et mon père de publicité, le souvenir de ma mère et mes efforts, car si elle m'intimidait, je l'admirais beaucoup. Enfin, cette arrivée subite apparaissait comme un contretemps si l'on pensait à la présence d'Elsa et aux idées d'Anne sur l'éducation. Elsa monta se coucher après une foule de questions sur la situation d'Anne dans le monde. Je restai seul avec mon père et vins m'asseoir sur les marches à ses pieds. Il se pencha et posa ses deux mains sur mes épaules. « Pourquoi es-tu si efflanquée, ma douce? Tu as l'air d'un petit chat sauvage. J'aimerais avoir une belle fille blonde, un peu forte, avec des yeux en porcelaine et... »« La question n'est pas là, dis-je. Pourquoi as-tu invité Anne et pourquoi a-t-elle accepté ?»« Pour voir ton vieux père, peut-être, on ne sait jamais. » « Mais tu n'es pas le genre d'homme qui intéresse Anne, dis-je. Elle est trop intelligente. » Elle se respecte trop. Et Elsa, as-tu pensé à Elsa? Tu t'imagines les conversations entre Anne et Elsa? Moi pas. Je n'y avais pas pensé, avoua-t-il. C'est vrai que c'est épouvantable. Cécile, ma douce, si nous retournions à Paris. Il riait doucement en me frottant la nuque. Je me retournai et le regardai. Ses yeux sombres brillaient. Des petites rides drôles en marquaient les bords de sa bouche et se retroussaient un peu. Il avait l'air d'un faune. Je me mis à rire avec lui comme chaque fois qu'il s'attirait des complications. « Mon vieux complice, dit-il, que ferais-je sans toi ?»
L'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal, sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera de l'orgue de barbarie. Cette ère pour nous sera le plus beau, le plus joli. Puis je t'inviterai, ta taille je prendrai. Nous danserons tranquille loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une fin du monde, vers une nuit profonde. Un jour tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonjour tristesse, Françoise Sagan. Le ton de la voix de mon père était si convaincu, si tendre, que je compris qu'il aurait été malheureux. Tard dans la nuit, nous parlâmes de l'amour, de ses complications. Aux yeux de mon père, elles étaient imaginaires. Il refusait systématiquement les notions de fidélité, de gravité, d'engagement. Il m'expliquait qu'elles étaient arbitraires, stériles. D'un autre que lui, cela m'eût choqué. Mais je savais que dans son cas, cela n'excluait ni la tendresse, ni la dévotion. Sentiment qui lui venait d'autant plus facilement qu'il les voulait, les savait provisoires. Cette conception me séduisait. Des amours rapides, violentes et passagères. Je n'étais pas à l'âge où la fidélité séduit. Je connaissais peu de choses de l'amour, des rendez-vous, des baisers et des lassitudes. Le jour de son arrivée, il fut décidé que mon père et Elsa iraient l'attendre à la gare de Fréjus. Je me refusais énergiquement à participer à l'expédition. En désespoir de cause, mon père cueillit tous les glaïeuls du jardin afin de les lui offrir dès la descente du train. Je lui conseillai seulement de ne pas faire porter le bouquet par Elsa. À 3 heures, après leur départ, je descendis sur la plage. Il faisait une chaleur accablante. Je m'allongeai sur le sable, m'endormis à moitié, et la voix de Cyril me réveilla. J'ouvris les yeux. Le ciel était blanc, confondu de chaleur. Je ne répondis pas à Cyril. Je n'avais pas envie de lui parler ni à personne. J'étais cloué au sable par toute la force de cet été, les bras pesants, la bouche sèche. « Êtes-vous morte ? » dit-il. De loin, vous aviez l'air d'une épave abandonnée. Je souris. Il s'assit à côté de moi et mon cœur se mit à battre durement, sourdement, parce que dans son mouvement, sa main avait effleuré mon épaule. 10 fois pendant la dernière semaine, mes brillantes manœuvres navales nous avaient précipités au fond de l'eau, enlacés l'un à l'autre sans que j'en ressente le moindre trouble. Mais aujourd'hui, il suffisait de cette chaleur, de ce demi-sommeil, de ce geste maladroit, pour que quelque chose en moi doucement se déchire. Je tournais la tête vers lui. Il me regardait. Je commençais à le connaître. Il était équilibré, vertueux, plus que de coutume peut-être à son âge. C'est ainsi que notre situation, cette curieuse famille à trois, le choquait. Il était trop bon ou trop timide pour me le dire, mais je le sentais au regard oblique, rancunier, qu'il lançait à mon père. Il eût aimé que j'en sois tourmenté. Mais je ne l'étais pas, et la seule chose qui me tourmenta en ce moment, c'était son regard et les coups de boutoir de mon cœur. Il se pencha vers moi. Je revis les derniers jours de cette semaine, ma confiance, ma tranquillité auprès de lui, et je regrettai l'approche de cette bouche longue et un peu lourde. « Cyril, dis-je, nous étions si heureux. » Il m'embrassa doucement. Je regardai le ciel. Puis je ne vis plus que des lumières rouges éclatant sous mes paupières serrées. La chaleur, l'étourdissement, le goût des premiers baisers, les soupirs passaient en longues minutes. Un coup de klaxon nous sépara comme des voleurs. Je quittai Cyril sans un mot et remontai vers la maison. Ce prompt retour m'étonnait. Le train d'Anne ne devait pas être encore arrivé. Je la trouvais, néanmoins, sur la terrasse, comme elle descendait de sa propre voiture. « Ah, c'est la maison de la Belle au bois dormant, dit-elle, que vous avez bronzée, Cécile, ça me fait plaisir de vous voir. »« Moi aussi, dis-je, mais vous arrivez de Paris ?»« Ah, j'ai préféré venir en voiture, d'ailleurs, je suis vanné. » Je la conduisis à sa chambre. J'ouvris la fenêtre dans l'espoir d'apercevoir le bateau de Cyril, mais il avait disparu. Anne s'était assise sur le lit. Je remarquai les petites ombres autour de ses yeux. « Oh, cette villa est ravissante, soupira-t-elle. Où est le maître de maison ? Ben, il est allé vous chercher à la gare avec Elsa. » J'avais posé sa valise sur une chaise et, en me retournant vers elle, je reçus un choc. Son visage s'était brusquement défait, la bouche tremblante. Elsa Mackenburg ? Il a amené Elsa Mackenburg ici ? Je ne trouvais rien à répondre. Je la regardais, stupéfaite. Ce visage que j'avais toujours vu si calme, si maître de lui, ainsi livré à tous mes étonnements. Elle me fixait à travers les images que lui avaient fournies mes paroles. Elle me vit enfin et détourna la tête. « J'aurais dû vous prévenir, dit-elle, mais j'étais si pressée de partir, si fatiguée. » « Et maintenant ? » continuai-je machinalement. « Maintenant quoi ? » dit-elle. Son regard était interrogateur, méprisant. Il ne s'était rien passé. « Maintenant vous êtes arrivé, dis-je bêtement en me frottant les mains. Je suis très contente que vous soyez là, vous savez, je vous attends en bas. Si vous voulez boire quelque chose, le bar est parfait. » Je sortis en bafouillant et descendis l'escalier dans une grande confusion de pensées. Pourquoi ce visage, cette voix troublée, cette défaillance ? Je m'assis dans une chaise longue, je fermai les yeux. Je cherchais à me rappeler tous les visages durs, rassurants d'Anne, l'ironie, l'aisance, l'autorité. La découverte de ce visage vulnérable m'émouvait et m'irritait à la fois. Aimait-elle mon père ? Était-il possible qu'elle l'aimât ? Rien en lui ne correspondait à ses goûts, il était faible, léger, veule parfois. Mais peut-être était-ce seulement la fatigue du voyage, l'indignation morale. Je passais une heure à faire des hypothèses. À 5 heures, mon père arriva avec Elsa. Je le regardais descendre de voiture. J'essayais de savoir si Anne pouvait l'aimer. Il marchait vers moi, la tête un peu en arrière, rapidement. Il souriait. Je pensais qu'il était très possible qu'Anne l'aimât, que n'importe qui l'aimât. « Anne n'était pas là !» me cria-t-il. « J'espère qu'elle n'est pas tombée par la portière. »« Elle est dans sa chambre, » dis-je. « Elle est venue en voiture. »« Non, mais c'est magnifique! Tu n'as plus qu'à lui monter le bouquet. » « Vous m'aviez acheté des fleurs !» dit la voix d'Anne. « C'est trop gentil !» Elle descendait l'escalier à sa rencontre, détendue, souriante, dans une robe qui ne semblait pas avoir voyagé. Je pensais tristement qu'elle n'était descendue qu'en entendant la voiture et qu'elle aurait pu le faire un peu plus tôt pour me parler. Ne fût-ce que de mon examen, que j'avais d'ailleurs manqué. Cette dernière idée me consola. Mon père se précipitait, lui baisait la main. J'ai passé un quart d'heure sur le quai de la gare avec ce bouquet de fleurs au bout des bras et un sourire stupide aux lèvres. Dieu merci, vous êtes là. Connaissez-vous Elsa Mackenburg ? Je détournai les yeux. Nous avons dû nous rencontrer, dit Anne, tout aimable. Oh, j'ai une chambre magnifique. Vous êtes trop gentil de m'avoir invité, Raymond. J'étais très fatigué. Mon père s'ébrouait. À ses yeux, tout allait bien. Il faisait des phrases, débouchait des bouteilles, mais je revoyais tour à tour le visage passionné de Cyril, celui d'Anne, ces deux visages marqués de violence, et je me demandais si les vacances seraient aussi simples que le déclarait mon père. Ce premier dîner fut très gai. Mon père et Anne parlaient de leurs relations communes qui étaient rares, mais hautes en couleur. Je m'amusais beaucoup jusqu'au moment où Anne déclara que l'associé de mon père était microcéphale. C'était un homme qui buvait beaucoup, mais qui était gentil, et avec lequel nous avions fait, mon père et moi, des dîners mémorables. Je protestais. « Lombard est drôle, Anne. Je l'ai vu très amusant. » Bon, vous avouerez qu'il est quand même insuffisant. Et même son humour. Il n'a peut-être pas une forme d'intelligence courante, mais... Elle me coupa d'un air indulgent. Ce que vous appelez les formes de l'intelligence n'en sont que les âges. Le côté lapidaire, définitif de sa formule, m'enchanta. Certaines phrases dégagent pour moi un climat intellectuel subtil qui me subjugue, même si je ne les pénètre pas absolument. Celle-là me donna envie de posséder un petit carnet et un crayon. Je le dis à Anne. Mon père éclata de rire. « Au moins, tu n'es pas rancunière. » Je ne pouvais l'être, car Anne n'était pas malveillante. Je la sentais trop complètement indifférente. Ses jugements n'avaient pas cette précision, ce côté aigu de la méchanceté. Il n'en était que plus accablant. Ce premier soir, Anne ne parut pas remarquer la distraction volontaire ou non d'Elsa, qui entra directement dans la chambre de mon père. Elle m'avait apporté un chandail de sa collection, mais ne me laissa pas la remercier. Les remerciements l'ennuyaient et comme les miens n'étaient jamais à la hauteur de mon enthousiasme, je ne me fatiguais pas. « Je trouve cette Elsa très gentille, » dit-elle, avant que je ne sorte. Elle me regardait dans les yeux sans sourire. Elle cherchait en moi une idée qui lui importait de détruire. Je devais oublier son réflexe de tout à l'heure. Oui, oui, c'est une charmante jeune fille, très sympathique. Je bafouillais. Elle se mit à rire, et j'allais me coucher très énervé. Je m'endormis en pensant à Cyril, qui dansait peut-être à Cannes avec des filles. Je me rends compte que j'oublie, que je suis forcé d'oublier le principal, la présence de la mère, son rythme incessant. Le soleil. Je ne puis rappeler non plus les quatre tilleuls dans la cour d'une pension de province, leur parfum et le sourire de mon père sur le quai de la gare 3 ans plus tôt à ma sortie de pension. Ce sourire gêné, parce que j'avais des nattes et une vilaine robe presque noire. Et dans la voiture, son explosion de joie subite, triomphante, parce que j'avais ses yeux, sa bouche, et que j'allais être pour lui le plus cher, le plus merveilleux des jouets. Je ne connaissais rien. Il allait me montrer Paris, le luxe, la vie facile. Je crois bien que la plupart de mes plaisirs d'alors, je l'ai dû à l'argent. Le plaisir d'aller vite en voiture, d'avoir une robe neuve, d'acheter des disques, des livres, des fleurs. Je n'ai pas honte encore de ces plaisirs faciles. Je ne puis d'ailleurs les appeler faciles que parce que j'ai entendu dire qu'ils l'étaient. Je regretterais, je renierais plus facilement mes chagrins ou mes crises mystiques. Le goût du plaisir, du bonheur, représente le seul côté cohérent de mon caractère. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc le début de ce roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.